bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
En place Colbert.
Et bonsoir, on est sur le 102.2, Radio Canu, et c'est parti pour le Canu Info du lundi soir. Toute l'équipe est là en pleine forme pour vous faire d'abord un petit tour des dernières informations, un point d'agenda, et puis on aura un zoom sur la question syrienne avec deux invités qui sont actuellement à la mairie du premier, juste à côté d'ici, où on reçoit le maire de la partie libérée d'Alep Est. Donc on aura un petit extrait, un petit état de la situation, presque en direct. C'est parti.
Donc niveau actualité internationale, donc pour ceux qui ont passé donc un long et dur week-end, je vous informe que Fidel Castro s'est éteint ce vendredi à La Havane suite à une longue maladie. En 2008, il avait donné le pouvoir à son frère Raoul. Castro a beaucoup critiqué, mais en tout cas, il n'en reste pas moins un symbole pour les pays du Sud et surtout pour l'Amérique latine. Voilà, niveau petite actualité internationale.
Dans les autres actualités internationales, on a les Australiens qui ne sont pas contents parce qu'il y a des ailes qui attaquent leurs drones. Donc voilà, c'est un truc qui a été repris par cette fois, mais par contre pour se défendre par l'armée française. Et donc il faut voir donc que les drones en fait vous permettent de tous ces drones qui servent à rien et qui nous emmerdent foncièrement, il faut en fait dresser des ailes, comme ça on sera tranquille entre eux. Donc voilà. Donc merci les ailes.
Ok, donc au niveau actualité nationale, il y a une explosion du nombre de familles qui sollicitent le 115. La Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, donc la FNARS, a réalisé une enquête qui regroupe auprès de plusieurs 115.
Tu peux rappeler ce que c'est le 115 ?
Alors, le 115, c'est un centre d'appel qui permet aux personnes, aux sans-abri, d'appeler.
Sur l'hébergement d'urgence.
Tout à fait, sur l'hébergement d'urgence. Ils ont réalisé une enquête et ce résultat montre que le nombre de familles, au moins un parent et un enfant à la rue, a explosé dans de nombreuses villes et départements. La situation est d'autant plus préoccupante à l'approche de l'hiver qu'elle concerne beaucoup de mineurs. Donc, quelques chiffres de cette enquête. Donc, 590 personnes en famille n'ont pas pu obtenir d'hébergement faute de places disponibles à Paris. 32 enfants de moins de 3 ans endormis à la rue en Seine-Saint-Denis. 193 familles ayant sollicité le 115 étaient sans solution d'hébergement à Lille. 44 familles ayant sollicité le 115, était sans solution d'hébergement à Toulouse. Sachant que depuis déjà un mois, pratiquement, on est rentré dans une période de trêve hivernale où normalement il aurait dû y avoir plus de places d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation difficile de logement. Donc le dispositif d'hébergement d'urgence est également complètement saturé, voilà, excusez-moi. Donc dans les Alpes-Maritimes, dans le Rhône, en Seine-Saint-Denis et en Isère. Le 115 de l'Isère est d'ailleurs en grève le 8 novembre, faute de place disponible à proposer aux personnes et aux injonctions de tri des publics en fonction de leur statut, de critères, de vulnérabilité, voire de ressources. Donc la FARTS demande en urgence la mobilisation par l'État et les collectivités locales de tous les bâtiments publics disponibles pour l'ouverture de places d'hébergement sur ces territoires, dans le respect de la dignité des personnes et du principe d'inconditionnalité de l'accueil. Elle demande également une coordination des centres d'accueil et d'orientation. Voilà.
Alors, pour continuer dans l'actualité, on avait quand même un week-end bien chargé. Au niveau national, déjà, on a eu les primaires de la droite, donc la grande blague du week-end. Donc on va vous faire un...
Personne n'en a entendu parler.
Il paraît que...
C'est un secret.
Qu'est-ce qui s'est passé que les Républicains, parce que nous on n'a absolument rien fait, au contraire, on faisait des trucs bien plus intéressants, clairement, on vous en parlera après, et un certain nombre de personnes en tout cas ont payé 2 euros pour avoir le droit de choisir un nouveau chef charismatique dans la personne de notre monsieur Fillon.
Ils ont quand même signé comme quoi ils adhéraient aux valeurs de la droite aussi.
Oui, et qu'est-ce que c'est que les nouvelles valeurs de la droite ? Donc, quand on voit les discours de Fillon, qui n'hésite pas à employer le terme de race dans ses discours, qui est quand même le candidat officiellement adoubé par la Manif pour tous, est-ce que ça voudrait dire qu'on a 3 millions de fachos qui sont venus signer et qui défendent ce genre d'idée ?
Pas d'insultes, pardon.
Juste des constatations. Mais bon, en tout cas, on va continuer là-dessus. Donc, ces primaires, on a eu quelques réactions locales. Donc, on a notre cher et grand président de la région, Monsieur Wauquiez, qui a quand même osé balancer un tweet en disant je cite, « Il faudra dire que les plus riches ne seront pas les seuls bénéficiaires de notre projet. La droite doit aussi s'adresser aux classes moyennes. » Mais c'est génial. Donc, enfin, au moins quelqu'un d'honnête. Enfin, au moins cette phrase est honnête. Monsieur Wauquiez admet que les programmes des Républicains se foutent totalement des pauvres et a pour but, à la rigueur, de s'attaquer peut-être un jour à la classe moyenne. Mais en attendant, c'est clairement, ils bossent pour les riches. Donc, au moins, c'est bien, ils l'admettent publiquement sur Twitter. Donc, voilà. Et pour continuer, mais parce que Wauquiez a une image aussi des Républicains, c'est les riches, mais aussi les riches catholiques, surtout, parce que pas les musulmans, on s'en fout. Donc, une des actualités du week-end ou de fin de semaine dernière, c'est que Monsieur Wauquiez a refusé de financer l'Institut français de civilisation musulmane qui devait se construire à Lyon, et par contre a annoncé ce week-end qu'il était prêt à apporter quasiment, je vois bien mes papiers, 2 millions d'euros pour le réaménagement de Fourvières. Donc on voit pas trop, on voit bien un magnifique transfert de fonds d'un centre culturel à un centre touristique en fait. Parce qu'il faut reconnaître ce que c'est, Fourvières, c'est quand même, enfin pour l'association qui gère, elle est en charge de la basilique sanctuaire, du jardin de la roseraie, d'un musée d'art religieux et surtout des commerces jouxtant les lieux. Donc en fait, la région va payer plus de 2 millions d'euros sur un projet de 16 pour que les catholiques continuent à se faire de l'argent et puis d'autres personnes aussi puissent continuer à se faire de l'argent sur un pseudo-tourisme religieux. Et c'est génial tout ça. Donc on va continuer du week-end, parce que vu qu'on est très nombreux ce soir, ça va continuer là-dessus. On a que ce qui va se passer, on a une grève du métro qui démarre demain matin. Donc j'ai pas bien compris quel genre dans les postes, mais bon, c'est une grève du métro qui est une grève reconductible. Donc avec un peu de chance, en tout cas, copains grévistes, continuez, parce qu'ils parlent de menacer le 8 décembre. Donc attention, la fête des Lumières se fera-t-elle à pied ? Peut-être. De toute façon, vous serez tous fouillés à l'entrée. Je crois que le métro sera coupé en presqu'île. Donc, foncièrement, je pense que en fait, on s'en fout qu'il y ait qu'ils fassent grève ou pas ce jour-là. Mais en attendant, ils font grève. Donc, on leur souhaite bon courage. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme information ce week-end ? Si, les policiers retournent dans la rue. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi. Ils se disent apolitiques, mais réclament plus de sécurité. Ils se disent asyndicales, mais forment leur propre syndicat. En fait, ils appellent ça une association, mais bon, une association qui a pour but de défendre les droits des travailleurs, c'est un syndicat. Donc bon, à voir qui est derrière, qui soutient tout ça. Petite info du week-end encore, c'est vous qu'on a un peu de temps, on va en profiter. C'est, il y a eu un grand drame à Lyon ce week-end. Je vais vous citer quelques citations trouvées sur internet. Mon mari et mon fils se sont fait arnaquer de 80 euros. Mon enfant a pleuré toutes les larmes de son corps. Ou encore, j'ai voulu offrir un cadeau à mon mari. Certains donc internautes se plaignent d'avoir été arnaqués en achetant des places invalides pour le match entre Lyon et Paris ce week-end qui se déroulait à l'OL. Et oui, le drame absolu, les gens ont en fait acheté des photocopies du même billet. Et oui, donc en fait, il y a le marché noir, et c'est cher, et en général, ça marche pas trop, la preuve en est. Donc si vous voulez profiter de ces trucs-là, soit d'organiser un match entre copains, vous pourrez le regarder, ça a à peu près autant d'intérêt, vu comment les joueurs jouent à l'heure actuelle. Et sinon, je suis désolé pour vous, il faudra passer par des vraies places, ça évitera de pleurer toutes les larmes de son corps pour ne pas avoir vu que 22 personnes couraient derrière un bout de chiffon. D'autres informations? On passe à l'agenda?
Passons à l'agenda. Rien à redire du coup. Non, c'est bon, sur actualité locale, c'est fait.
Après.
Ok. Le 29 novembre, donc, il y a une projection film à la hauteur de nos désirs, donc à la Lutine, à 20h30. Le 1er décembre, Vieillir autrement, quelle alternative? C'est une soirée débat à 20h à la MJC du Violon. Le vendredi 2 décembre, il y a un séminaire sur l'histoire de l'Afrique à la Maison des étudiants, donc à 19h. Voilà, de la lutte décoloniale aux indépendances. Donc voilà, soirée débat à la Maison des étudiants. Le samedi 3, donc, il y a plusieurs choses. Il y a donc un meeting donc, pour Adama donc, Traoré donc, ce 3 décembre. À quelle heure à 19h15 donc, à la MJC donc, Jean Massé. Donc voilà, ce 3 décembre pour soutenir la cause, soutien en famille. Et nous avons donc aussi ce 3 décembre à la Maison des associations, un temps fort sur la lune des femmes, donc une journée organisée par le collectif Femmes en Révolution. Donc c'est toute la journée là, donc c'est un séminaire sur toute la journée, donc c'est des femmes du Maghreb et du Proche-Orient qui vont venir prendre la parole et faire part de leur expérience. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Alors, pour revenir aussi sur ce magnifique week-end, il y avait l'événement du week-end, par contre, quand même, c'était samedi soir, la soirée de clôture du mois de novembre libertaire. Donc, on va faire un petit retour, parce qu'on a du temps, et puis parce que c'était quand même sympa. Donc, la soirée en chiffres, ça a été quasiment l'équivalent de 30 fûts de bière consommés. Donc, je dis bravo, vous avez énormément, votre soutien était très, très, très efficace, très liquide, mais très efficace. Donc, merci à vous d'avoir bu autant, en tout cas, les copains de la caisse et le festival vous remercient d'être venus. Pour l'instant, on n'a eu que des très très bons retours, les groupes étaient contents, les spectateurs encore plus. La caisse de soutien a pu largement rentrer dans ses frais, au contraire, donc ça va permettre d'aider plein de copains qui sont dans le besoin. Donc tout ça, c'est très cool. Donc en tout cas, au nom du Festival du mois de novembre libertaire, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour remettre ça. Si vous êtes motivé pour venir nous aider, y a une adresse publique, un site, vous écrivez, vous venez, et puis voilà. Sinon, que dire d'autre? Il y a eu la marche de nuit non mixte qui s'est plutôt bien passée aux dernières nouvelles. Donc c'était cool, les copines ont organisé un truc, elles étaient 150. Les FAF qui avaient continué à proférer des menaces sur internet ne sont heureusement pas venus. Donc il n'y a pas eu en tout cas de problème avec eux, enfin en tout cas pas qu'ils me soient revenus. Et puis voilà. Donc maintenant, on va vous faire écouter un reportage pour finir sur cette activité du week-end qui était quand même extrêmement chargée. Il y a eu, enfin on va refaire un petit historique, samedi, pas celui-là, mais samedi d'avant, suite à une manifestation de l'extrême droite catholique pour la sauvegarde d'une église, pour éviter qu'elle se transforme en locaux de coworking, une connerie comme ça, c'était joint à ces catholiques intégristes dans un certain nombre de groupes d'extrême droite ultra radicale, dans tous les tarés habituels, qui étaient là et qui ont fini pour finir de se défouler, parce qu'au final il ne s'est rien passé, donc ils avaient besoin d'un peu d'action, ils sont allés attaquer un local qui s'appelle La Plume Noire. Et la CNT aussi a un peu pris, mais c'est surtout le seuil de la pluie noire qui s'est quand même pas mal abîmé, et donc avec les vitres cassées et puis donc pas, les rideaux arrachés. Donc en soutien, s'est tenue samedi dernier une manifestation et des copains ont eu le courage et la bonne idée d'y aller pour faire un petit reportage qu'on va vous diffuser tout de suite.
Tu nous rappelles ce que c'est la Plume Noire ?
Oui, la Plume Noire, pardon. C'est un local associatif géré par la coordination des groupes anarchistes, donc CGA, qui existe depuis un certain temps, qui s'est quand même baladé pas mal à la Croix-Rousse, mais là qui s'est fixé, ils ont réussi à acheter, grâce au soutien un peu tout le monde, à acheter un local, donc là ils sont posés et là, et c'est un lieu culturel qui propose, enfin il y a une très très bonne bibliothèque que je conseille, il y a régulièrement des événements, enfin il y a un bar qui est très sympa. Et donc voilà, c'est une manif en soutien, ils ont aussi lancé un appel à soutien financier pour rembourser puis améliorer le local, ce qui fera jamais de mal dans tous les cas. Et mais écoutez, on va écouter tout ça.
En place Colbert, c'est sur cette place qu'a eu lieu du coup ce rassemblement de cathos fachos d'extrême droite qui viennent. Et pour eux c'était un moyen d'investir un peu de quartier, ce quartier qui traditionnellement quand même est militant et antifasciste. Et du coup pour eux c'était l'occasion de venir sur cette place, de l'occuper alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire un samedi après-midi comme ça en se pointant ici. On sait comment ce serait passé, ils ne seraient jamais restés. Ils avaient tenté par le passé une fois de s'en prendre au bar, de s'en prendre au local et les habitants du quartier qui étaient là, et ben, les avaient chassés. Donc on sait qu'ils ont profité de ce rassemblement interdit, mais du coup autorisé, puisqu'il s'est tenu quand même devant les forces de police, pour investir la place et pour ensuite faire ce qu'ils ont fait, à savoir passer à l'attaque. Donc nous, et comme vous je pense, on a été aussi choqués, bah, forcément par ce rassemblement qui est interdit mais qui s'est tenu. On sait comment ça se passe pour nous, militants et militants progressistes, anarchistes, révolutionnaires, quand on fait un rassemblement, qu'il soit autorisé ou pas d'ailleurs. On a vu durant le mouvement contre la loi travail comment ça se passe. On est systématiquement fouillés à l'arrivée des manifs, avec du matériel de soins notamment qui est confisqué, des fouilles au corps, confiscation de matériel. Là, on les a vus débarquer une demi-heure avant le rassemblement, casqués, armés, passer devant la Plume, nous menacer une première fois, arriver au rassemblement devant les forces de police sans que rien ne se passe. On sait aussi comment ça se passe quand nous, on organise un rassemblement qui n'est pas déposé en préfecture, à savoir généralement c'est contrôle de police, contrôle d'identité. Si on n'a pas notre carte, c'est au poste pendant 4 heures. Etc, etc. Là, il ne s'est rien passé de tout ça. Les autorités s'en sont même pris du coup aux habitantes et aux habitants du quartier qui réagissaient à ce rassemblement qui avait été interdit, à savoir en faisant une ligne de CRS face aux habitants et aux habitantes et non pas face aux fachos, comme d'habitude. Et ensuite, le fait que les forces de police aient raccompagné très gentiment le groupe de 20 à 40 personnes qui étaient venues pour exercer des violences juste en bas de la place, les laisser partir en bas de la place, partir, les laisser tranquillement en bas. On a vu ce qui s'est passé après, voilà, ils ont pu s'équiper, s'armer, se regrouper juste en bas des pentes, monter à la cour des Voraces, et ensuite du coup attaquer le local de la Plume Noire qui était juste en dessous. Pour parler un petit peu de l'attaque sans détailler, on a écrit un communiqué qu'on a distribué ici puis qui est trouvable sur le net de toute manière. Par rapport à l'attaque, voilà, donc il y a quand même entre 20 et 30 personnes donc, qui sont venues casquées et armées, qui ont chargé du coup les militants militantes qui étaient à la Plume Noire et qui ont du coup saccagé toute la devanture de la Plume. On a eu, en criant du coup, voilà, nous on a eu beaucoup de chance au niveau des blessures physiques, hein, parce que du coup on a eu quelques bobos, mais ça s'est limité à des blessures heureusement superficielles. Après au niveau du choc psychologique c'est autre chose, parce que quand vous avez 20 ou 30 personnes qui armées, qui se pointent sur vous, qui défoncent votre local et qui cherchent à rentrer pour vous défoncer la gueule, c'est autre chose. Et aussi très choqué par les paroles du coup qui ont été aussi proférées par ces militants d'extrême droite, hein, donc du coup c'était banal, on va dire maintenant, malheureusement, on est chez nous, utilisé aussi bien du coup par les différents groupuscules que lors des manifs policières récemment qu'on a vu sur Lyon. Je me perds un peu dans mon texte, mais je vais y arriver. La France aux Français et surtout mort aux Juifs, voilà, qui a été crié plusieurs fois en attaquant et en partant du local. Hein, ils ont crié dispersion et ils ont détalé dans les pentes en se dispersant. Par rapport à l'attaque de la Plume Noire, il faut savoir du coup que c'est pas la première fois que cette librairie, donc c'est une librairie militante, autogérée, libertaire, qui existe depuis près de 30 ans, qui était avant du coup rue Pierre Blanc plus bas sur les pentes et qui est maintenant depuis 2010-2011 au 8 rue Diderot. Il faut savoir que bah, nous sommes pris pour cible assez fréquemment par des collages, par des tags de croix nazies, de croix celtiques, notamment les week-ends, hein, le samedi soir. Voilà, c'est la première fois par contre qu'il y a une attaque comme ça en pleine journée. L'attaque s'est déroulée entre 5h30 et 6h. Un samedi après-midi dans ce quartier-là, qui est quand même assez touristique aussi. Donc ça veut dire que ça aurait pu être un carnage si vraiment ils avaient croisé d'autres gens derrière et qu'ils n'avaient pas pu se mettre à l'intérieur du local. Ce local-là a déjà été incendié par le passé, il y a 20 ans, 1997. Pareil, par des militants d'extrême droite qui avaient profité d'une ouverture pour glisser de l'essence et cramer le local, qui faisait aussi partie d'un immeuble, donc ils auraient pu aussi à l'époque cramer du coup les habitants et les habitantes qui étaient dedans. Mais il y aura d'autres réponses politiques à cette attaque, et on vous tiendra au courant très très vite de ce qu'on va proposer face à ces 6 mois jusqu'à l'élection présidentielle qui risque d'être très 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 tendue et qui va libérer un peu plus la parole de ces groupuscules. Et je laisse la parole pour la suite.
Ce rassemblement et l'attaque qui a suivi rappelle qu'il y a quand même des cibles privilégiées de ces groupuscules fascistes, les minorités nationales, en gros tout ce qui ne ressemble pas à leur vision d'une Europe blanche et chrétienne, les migrants et les migrantes, les minorités sexuelles et toute la communauté LGBTI, les femmes et les militants et militantes anarchistes et progressistes du mouvement social. Sur la région lyonnaise, rappelons quand même qu'il y a 4 locaux ouverts malgré de nombreuses condamnations pour des faits de violence graves, par les identitaires, l'Action française, le GUD, le Parti national français. S'ajoutent, entre 2010 et 2014, une 40aine d'agressions donnant lieu à des 100aines de jours d'interruption temporaire de travail. Donc cette situation, elle est connue quand même depuis très longtemps. Face à ça, on constate l'inaction complète des autorités publiques et de la ville de Lyon qui renvoie systématiquement dos à dos, depuis 6 ans et depuis l'ouverture de la Traboule, des militants progressistes et des militants d'extrême droite, comme si on était des pions dans une même partie. La situation en France est malheureusement pas meilleure. À Lille, les identitaires ont ouvert un local récemment et il y a eu des agressions contre des militants et des militantes. À Marseille, c'est un local de l'Action française qui a ouvert. En Bretagne, une section du GUD s'est créée et on compte déjà des attaques contre des militants et des militantes et contre un centre de réfugiés. Les discours réactionnaires et racistes des politiciens de tous les bords se multiplient à l'encontre des minorités nationales, des migrants, des minorités sexuelles, des femmes et du mouvement social. Et ça a des conséquences directes pour les personnes concernées. Et ça ouvre carrément la voie au passage aux actes de ces groupuscules qui se sentent complètement légitimes. Alors quelle suite donner à ces événements, à cet événement en particulier? Et puis ensuite, il nous faut aussi nous former sur ces questions. Dans toutes les luttes, antifascistes ou non, il faut comprendre pour agir. Et surtout, initier et investir les luttes populaires qui restent l'unique moyen de faire reculer les fascistes et leurs idées dans la société. Il faut qu'on travaille ensemble, de manière offensive, en gardant à l'esprit que la montée du fascisme en France et dans le monde, ça se combat par la lutte contre le capitalisme, dont le principe de base, c'est de diviser pour mieux exploiter. Pour finir, nous avons lancé un appel à solidarité financière avec la plume afin de réparer et de rendre pérenne ce local militant du mouvement social.
Voilà, donc s'il y a des gens qui ont vu des choses, faut pas hésiter à venir nous voir pour ces témoignages. S'il y a des photos, des vidéos, que ce soit pour le rassemblement ou pour après, faut pas aussi hésiter à nous les donner, ça pourrait servir pour la suite. On a aussi lancé du coup sur un site internet, donc un pot commun du coup, voilà, pour que ce soit un peu plus large qu'à Lyon, pour nous aider du coup à reprendre très très vite nos activités source locale. On n'a pas dit tout à l'heure, mais source locale, pour ceux qui ne connaissent pas, donc du coup c'est à la base une librairie du coup anarchiste qui est ouverte 2 fois par semaine, donc vente de bouquins, il y a une bibliothèque, mais aussi du coup on organise des projections, des débats, des discussions, des concerts, ouais, des goûters aussi pour les gamins, parce qu'on fait des projections de temps en temps pour les gamins, et puis comme activité politique, voilà, bien concrète, pour que vous sachiez bien ce qu'on fait nous, depuis presque un an maintenant, tous les lundis soirs, il y a des cours de langue qui sont organisés en solidarité avec les migrantes et les migrants, donc voilà, sur place, au local.
Info Canu, reportage.
Vous êtes bien sur le 102.2, Radio Canu, le Canu Info du lundi soir, et on enchaîne sur le sujet de l'actualité en Syrie avec 2 invités qui viennent juste de nous rejoindre pour évoquer la situation en Syrie et le soutien au peuple syrien, notamment par les Français d'origine syrienne. Alors, vous vous rappelez peut-être qu'on a déjà fait un point sur la Syrie dans le Canu Info du 24 octobre, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre super blog, à jour et tout et tout. On avait à ce moment-là reçu 2 réfugiés politiques syriens installés à Lyon depuis 1 ou 2 ans, qui ont plutôt témoigné du régime de Assad, donc le père autoritaire et répressif, qui n'hésitait pas à emprisonner pendant des années. Ils avaient été emprisonnés pour l'un 10 d'années, pour l'autre 7 ans, soit parce qu'ils étaient opposants au régime ou simplement pas tout à fait partisans à sa solde. Et ce soir, on reçoit 2 invités qui auront probablement un autre regard. Najwa Saloul, bonsoir, elle s'installe.
Bonsoir.
Et Nazem Bederhalden, bonsoir.
Oui,
Nazem.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tous les deux hors de Syrie depuis de nombreuses années, mais pour autant toujours très liés et impliqués pour votre pays d'origine. Et vous avez souhaité agir depuis là où vous êtes aujourd'hui, donc à Lyon. Et vous avez notamment cofondé en 2013 le comité d'information pour une Syrie libre et démocratique, dont on dira quelques mots. Juste peut-être avant de vous donner la parole, je vais donner quelques points de repère pour ceux qui connaissent peut-être pas tout à fait les grandes dates du régime Assad au pluriel, on peut presque dire. Quelques dates clés et puis je vous laisserai rebondir dessus. Donc en 63, le parti baste d'obédience communiste pro-soviétique prend le pouvoir en Syrie. Et en 70... coup d'État, Hafez al-Assad devient président de la République, mais il établit en réalité une dictature et un culte du chef jusqu'à sa mort en 2000, donc pendant 30 ans. Et en 2000, il passe son relais à son fils en bonne République démocratique, donc Bachar al-Assad, qui prend le pouvoir. Malgré une image en apparence plus moderne, plus jeune, plus ouverte sur le monde occidental, il reproduit en réalité un régime autoritaire et corrompu. Donc ça fait plus de 40 ans que la Syrie subit une oppression politique sans faille. Et en 2011 éclate la révolution contre le régime, atrocement réprimée depuis. Donc ça fait bientôt 5 ans que la révolte est écrasée par le régime et son allié, notamment russe. On est passé du fusil au bombardement, en passant par le canon, les armes chimiques. Un véritable massacre d'un peuple dont on a du mal à évaluer le nombre de victimes, compte tenu du contexte extrêmement compliqué. Mais les chiffres qui circulent vont jusqu'à 500 000 morts aujourd'hui.
Oui.
J'avais déjà quelques questions, mais je sens que vous avez envie de réagir déjà à ce petit rappel historique. Alors, allez-y, Najwa.
Oui, si vous permettez, juste à propos de partie basse. En fait, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression... Oui, c'est bon. Vous avez dit donc soviétique concernant...
Pro-soviétique.
Pro-soviétique, non. En fait, c'est à l'origine, quant à sa création, c'est plutôt un parti politique socialisant, socialiste. Et parce qu'il y avait déjà, depuis les années 40, un parti communiste syrien. Voilà.
Mais il prenait bien, au départ, les principales valeurs, c'était une solidarité, une redistribution sociale. On était dans une mouvance, on va dire, qu'on qualifierait de gauche, en tout cas.
Oui, tout à fait. Oui, ici. Tout à fait, oui.
C'était juste l'image, hein, mais à l'intérieur, c'était droite. Et je viens, en fait, de lire un petit texte aujourd'hui que Hafez al-Assad était musulman plus que tous les musulmans en Syrie, en fait. Sur tout ce qu'il a fait, surtout les nombres de mosquées, etc., en fait. Et justement, c'était son plan, en fait, par la suite, pour utiliser la radicalisation pour ce qu'on a vu en Irak et maintenant, en fait. Pour une partie, c'est pas tout le monde, bien sûr. Mais en fait, moi, j'aimerais bien rajouter un petit truc sur l'élection. Quand il a pris le pouvoir, Bachar al-Assad, il y a un petit détail très important à montrer, c'est que la constitution a été changée en 5 minutes. En fait, avant, c'était demandé, la constitution demande 40 ans, qu'il soit l'âge de président, et comme Bachar al-Assad était 34, donc en 5 minutes, ils l'ont changé de 40 ans à 34 ans.
Alors, on a abaissé l'âge minimum pour être éligible, voilà, pour que le fils... Hafez al-Assad puisse prétendre aux élections. Effectivement, c'est facile, en fait. Il suffit de changer la constitution. Alors, donc, effectivement, ces élections étaient une mascarade. Beaucoup l'ont souligné. Moi, ce que j'avais envie que vous rappeliez pour commencer, c'était les débuts de cette révolution en 2011 qui ont aujourd'hui a tourné au massacre. En février 2011, alors qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a commencé, je ne sais pas, je commence ou tu commences. Ça a commencé par, en fait, d'abord parce qu'il y avait ce qu'on a appelé le printemps arabe, Ça a commencé par des petits rassemblements, mais vraiment plutôt ce qu'on peut appeler sit-in, pour soutenir le peuple révolté un peu partout. Donc c'était en Égypte, en Libye, etc. Et finalement, première vraiment manifestation très clairement anti-régime était dans le souk de Damas. Pas vraiment manifestation, c'est un policier qui frappe le fils d'un commerçant. C'était en février. Et ceci a déclenché un petit rassemblement en lançant des slogans contre le régime. C'est lui qui protège le peuple, le vol. On n'a pas le droit d'humilier le peuple syrien. C'est très important de vous rappeler cet événement, même si ce n'est pas ce qui a marqué, ce qui est après finalement considéré comme le déclencheur. Le déclencheur, je vais laisser peut-être à Nazem le raconter à Dara. C'est très important de tenir compte de l'impossibilité de s'exprimer dans la rue. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est même inimaginable que des gens se révoltent, même si c'est un policier qui a frappé. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer après 40 ans de répression cinglante du peuple syrien. Oui, mais le vrai déclencheur, donc je vais le... Enfin, le
juste
vrai,
pour compléter sur ce contexte vraiment de chape de plomb, le régime avait mis en place un système de surveillance totale avec des espions, enfin qu'on appelait des mohabbats, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient en fait absolument partout, et même dans un café, les gens n'osaient pas s'exprimer librement autour d'une
C'est une corruption verticale, en fait, de la société par un régime... effectivement, de Mukhabarat, donc de services secrets. Et ça, depuis le début, c'est le père qui a mis en place et le fils a continué. Voilà.
Oui, voilà. Moi, en fait, j'aimerais bien parler sur quelques points très importants, sur le déclenchement aussi de la révolution pacifique. Nous, maintenant, en fait, on a oublié déjà ce qui s'est passé il y a 5 ans. Parce qu'en fait, il y a 5 ans, quand les gens commençaient à révolter, étaient pacifiques à 100% et elle est restée 7 mois comme ça. Les gens, ils manifestent tous les jours et tous les jours, ils descendent dans la rue et ils se font tuer par la pression, par l'armée de Bachar el-Assad. Mais les gens, ils ont résisté 7 mois et ils ont resté pacifiques 7 mois. Ils descendent tous les jours dans la rue, les mains vides.
Il faut imaginer le courage que ça signifiait dans le contexte.
Exactement, c'est ça. Et le régime de Bachar el-Assad, dès le départ, en fait, il a essayé de jouer là-dessus. Il voulait, en fait, le premier jour, manifestation en Deraa, il n'y avait pas de mort, mais le deuxième jour, il a tué 51 personnes. Donc, il a essayé tout de suite de leur donner et laisser des armes dans la rue. Moi, j'étais en contact avec les habitants de Deraa en direct. On était en contact en direct. Moi, je viens de Suède, la ville juste à côté, en fait. Et on a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on a commencé à les appeler, faire des contacts avec eux. Et à plusieurs reprises, l'armée syrienne, elle avance vers les manifestants et elle laisse leurs armes dans la rue et elle se retire. Pratiquement, ils ont compris ça comme quoi le régime, ils veulent leur donner des armes pour qu'ils puissent prendre cette arme et tirer vers eux. Et comme ça, il a la permission de défendre.
Tuer en fait.
Voilà. Mais à plusieurs reprises, en fait, les manifestants, ils prennent cette arme et ils la ramènent à la poste de la police. Ils l'ont fait comme ça, à plusieurs reprises. Et nous, on va compter 7 mois de manifestations pacifiques, et c'était énorme, en fait, tout ça. Voilà.
Oui, si je peux dire quelque chose à ce propos, en fait, c'est pas que le régime veut avoir des prétextes pour tuer. Là, il n'a aucun problème, parce qu'il l'a déjà fait en 1982, lorsqu'on a bombardé la ville de Hama, il y a eu des milliers de morts. Mais là, on est face au monde, c'est-à-dire le régime voulait toujours garder cette image du fils qui est ce garçon démocrate, civilisé. Et on voulait peut-être provoquer les gens, s'ils se mettent eux, les premiers à utiliser les armes, là, on est bon pour y aller. Mais ça, comme ça n'a pas marché d'ailleurs, c'est pas gêné pour Thiers. Mais en tout cas, effectivement, il a essayé par tous les moyens de saboter le mouvement pacifiste qui a duré. Pour certaines villes, ça a duré 7 mois. Pour d'autres, ça a duré 1 an, pratiquement même plus. Mm-hmm. Donc, ça dépendait des. On parle de la Syrie, hein, d'une moyenne.
C'est même en fait quand il y avait des ils ont pris l'arme, les gens. Ils étaient juste pour défendre leur manifestation. C'était vraiment pas pour tirer sur l'armée. C'était juste. Il fait un cercle sur les manifestations pour qu'ils puissent les protéger. Donc, c'était ça dès le départ. Et voilà.
Donc le déclencheur en fait de mouvement de toute façon en ampleur, c'était dans cette ville de Daraa dont parlait Nazem, où en fait des enfants ont tagué les murs de leur école avec des slogans anti-Assad, ton tour viendra, quelque chose comme ça. On a arrêté ces enfants-là. Pour parler de Mukhabarat, c'est la directrice de l'école primaire qui les a dénoncés aux services secrets, qui sont venus les chercher. Et ça, il faut comprendre, ça c'est un point très important, même si on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je le dise. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est une mauvaise femme et elle est horrible, c'est parce que tout simplement elle a peur. Si elle ne dénonce pas, elle peut elle-même être objet d'arrestation et de torture, etc. C'est ça, en fait, la verticalité de régime, sa manière de procéder. Et donc, ils ont été transférés à Damas, imaginez, et ils ont été torturés, on leur a arraché les ongles, etc. Et les parents, donc, sont allés d'abord demander auprès de leurs enfants. On leur a dit, écoutez, oubliez-les et faites d'autres enfants. Et c'est par là que le mouvement a commencé, par des manifestations réclamant la libération des enfants. Comme la deuxième manifestation dont parlait Nazem, donc, on les a affrontés avec des balles réelles et il y a eu des morts. Et puis la ville a été assiégée. Là, c'était comme une traînée de poudre dans l'ensemble de la Syrie en solidarité avec Daraa. Et c'est comme ça que le mouvement a commencé.
Oui, avec des manifestations dans des centaines de villes en Syrie. Parfois énorme, hein, jusqu'à 500 000 manifestants à Hama. Justement, vous citiez Hama qui avait été massacré en 82. C'était peut-être une vengeance un petit peu. Ils sont tous descendus dans la rue en 2011.
Vengeance pacifiste, quand
pacifiste,
même.
Pacifiste, disons un second souffle, en tout cas au début. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement au bout de 7 mois de manifestations pacifistes?
Les gens, ils ont commencé à prendre les armes pour défendre leur vie, quoi, leurs enfants, leur terrain, leur maison. Donc, c'était ça. Mais parce que le régime, il a commis des massacres énormes, surtout à Al-Hawla et en Jisr-Shuhour, quand elle a commencé aussi là-bas. C'est là-bas, en fait, quand elle a commencé à Jisr-Shuhour, exactement, c'était commencé la première fois quand les gens, ils prennent les armes, ils commençaient à tirer contre l'armée de Bachar al-Assad parce que. Et il les arrête, il tue les gens comme d'une manière impossible, quoi. Donc là, ils ont commencé à prendre les armes un peu partout en Syrie pour qu'ils puissent protéger les manifestations.
Et garantir sa pacificité, c'est-à-dire que le mouvement reste pacifique, mais en protégeant les...
C'est ça, en fait. Ouais. C'était juste en fait, pour ne pas avoir des morts et pousser l'armée de Bachar al-Assad en dehors de cette manifestation.
Oui, puis à ce moment-là, il était question de soutenir militairement aussi la rébellion contre le régime et les soutiens internationaux sont jamais venus. Donc voilà, il y a eu...
Moi, je vois autre chose, en fait. Enfin, c'est leur cause, toujours, en fait. Comme quoi, il y a des terroristes là-bas. Non, c'est, la vérité, ils ne veulent pas. Pour moi, ils ne veulent pas intervenir. Parce que...
Oui, oui. Non, préfèrent... mais c'est ce que je dis. Peut-être le mouvement de contestation... espérer un soutien militaire aussi de l'extérieur.
Ils n'espéraient pas un soutien militaire. Les manifestants pacifistes, vraiment, ne voulaient pas un soutien militaire du tout. Comme l'a dit Nazem, on a porté les armes justement pour que le mouvement continue à être pacifique. Ce qui s'est passé, c'est que le régime ne s'est pas contenté d'ouvrir le feu simplement, les chars, etc. Il a commencé la politique de largage donc des barils, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des barils bourrés d'explosifs, etc. Donc, en fait, ce que les habitants, enfin, les révolutionnaires et les manifestants demandaient, c'est tout simplement une zone d'exclusion aérienne, à un moment donné de parcours de la révolution. Mais je ne pense pas, tout ce que on a quand même pas mal suivi cette question-là, il n'y a jamais eu demande d'intervention militaire. D'accord. Du tout. Mais une condamnation, oui, au niveau des instances internationales, oui. Chose qui n'est jamais venue, c'est-à-dire même sur le plan moral, il n'y a pas eu de condamnation, même au niveau des discours, la communauté internationale n'était pas foutue, je m'excuse du terme familier, de condamner le régime.
On est assez familier à Radio Canu, vous pouvez vous lâcher. Et alors, il y avait une deuxième question que Nazem a effleuré en introduction tout à l'heure en disant les Assad étaient musulmans. Donc on peut peut-être rappeler que donc le clan, parce qu'on peut parler voilà d'un fonctionnement clanique des Assad, sont alawites, donc qui est une branche musulmane, mais qui est toujours minoritaire en nombre en Syrie, dans un pays qui compte peut-être une dizaine de communautés religieuses, avec une majorité sunnite, donc qui n'est pas alawite, et que, vous me compléterez ou me corrigerez, mais le propos des Assad, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était d'un peu de défendre ces minorités dont il était issu, qui étaient exclues ou plus pauvres que les autres, et il a toujours assis son pouvoir sur ce discours-là auprès des autres minorités non sunnites, donc chrétiennes, voire... Kurdes, enfin les Kurdes c'est un peu plus compliqué j'ai l'impression, mais druzes ou et alawites bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, au caractère un peu multiconfessionnel de la Syrie et comment le pouvoir a utilisé ça?
Oui, en fait Hafez Assad il a utilisé ça vraiment, mais c'était pas pour défendre quoi que ce soit, c'était juste pour qu'il reste dans le pouvoir, c'était juste ça. Et au contraire en fait, si on voit en fait ce qu'il a fait Hafez Assad en Syrie, on va constater qu'il a divisé entre le peuple syrien. Par exemple, je vous donne un exemple.
Diviser pour mieux régner, hein, c'est bien connu.
Je vous donne un exemple. Par exemple, le mariage civil. Si, par exemple, quelqu'un druze, je peux dire ça, si quelqu'un druze, sa sœur mariée avec un sunnite ou peu n'importe quelle religion, et il peut tuer sa sœur, et la condamnation, ça, il peut être condamné à 6 mois de prison. C'est très simple. Quelqu'un qui tue sa sœur parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il peut être arrêté 6 mois et après libre de faire ce qu'il veut. Mmh. Donc ça, c'était justement pour ne pas avoir cette mélange qui était avant. On a un ami là, sa sœur, elle s'est mariée avec un sunnite il y a très longtemps, par exemple. Et c'était l'année, je pense...
Ce que tu veux dire, c'est 70. Qu'il encourageait les communautés à rester entre elles.
Exactement, pour ne pas sortir à l'extérieur. Nous, en fait, on était divisés, on ne se connaît pas. Moi, je ne connais pas la Syrie, je ne connais pas les Syriens avant la Révolution. C'est d'ailleurs, la meilleure chose qu'elle a fait la Révolution, c'est qu'elle a laissé les Syriens se rencontrer et se connaître. Donc ça, on ne se connaît pas avant. Justement parce qu'il avait mis des plans pour diviser entre les Syriens. Donc, son plan, c'était juste rester dans le pouvoir, être le plus fort possible pour qu'il puisse arrêter et diviser entre eux. Et, par exemple, quand il y avait des problèmes entre les villes, surtout, par exemple, la Suède et Dera, comme je suis de Suède, je connais qu'il y a des problèmes. Et Hamas Salami, par exemple, à plusieurs reprises, le président... Il se déplace lui-même pour régler le problème. Vous voyez, ce n'est pas la loi qui règle le problème. On n'a pas des lois qui règlent le problème. Donc, c'est lui qui se déplace pour vraiment régler le problème entre les gens. Donc, c'est vraiment... la Syrie, c'était des villes comme ça, comme un cercle. Des villes autour de ce cercle et lui au milieu. Donc, chaque ville, qu'elle a besoin de quelque chose, elle doit y aller le voir pour qu'elle puisse le faire. Donc c'était comme ça.
On ne peut pas dire qu'elle est venue pour défendre une minorité. Ça, c'est vraiment... M'excuse, mais c'est une contre-vérité, en fait.
Oh, c'était son argument,
mais c'est son argument. Mmh. Même pas pour la communauté alaouite, parce que les opposants alaouites étaient le plus durement, en fait, punis et réprimés. Et en réalité, ce qu'a fait Hafez Assad, qui était avant de faire son coup d'État, il était ministre des armées, quoi, enfin de la défense, et il a nettoyé l'armée de telle façon à ce qu'il puisse mettre la main sur l'armée, qui est une force quand même qui peut le contester. Et se poser.
Il a surtout défendu le clan Assad au final.
Finalement, c'est ça. Oui, je tiens quand même à dire que, pas uniquement, je rappelle simplement, puisque vous avez parlé de Hezb al-Ba'ath au départ, il y avait beaucoup de forces politiques à ce moment-là, parti communiste, parti socialiste, etc. etc. Lorsqu'il a fait son coup d'État, il s'est installé par référendum, jamais élu, par référendum, donc à plusieurs, bien sûr, plusieurs décennies, il a créé un front progressiste, appelé ça front progressiste, où tous les partis politiques étaient invités à venir. Ils étaient obligés de venir, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix de rentrer dans la clandestinité, mais tous pratiquement ont refusé. Il y a eu d'autres forces qui sont devenues clandestines. Et ils étaient dans la charte de ce front, ils étaient interdits de faire de la politique, ni à la fonction publique, ni dans la société civile, ni à l'armée, etc. Autrement dit, c'est le clan gouvernant qui avait la possibilité de faire de la politique. Autrement dit, en fait, voilà, vie politique complètement anéantie, alors qu'il y avait énormément de forces avant.
Oui, oui, il y avait une vraie... il émergeait une vraie... pluralité politique qui a été complètement étouffée avec la prise de pouvoir. Ouais, ouais. Et donc c'est intéressant ce que vous disiez, c'est que finalement la révolution vous a fait vous redécouvrir entre vous, en fait, le peuple syrien.
J'aimerais quand même dire une chose, c'est que moi je suis franco-syrienne depuis 35 ans. Lorsque on a décidé de créer donc le comité, on s'est adressé les uns les autres, on s'est connus un peu dans les rassemblements, etc. Et lorsque l'association Comité d'information pour une Syrie libre et démocratique a été finalement créée, on s'est regardé autour d'une table et c'est là où on a découvert qu'il y avait le kurde, le druze, le chrétien. C'est tout à fait par hasard et on est vraiment... voilà, c'est ça les Syriens en fait. Ce n'est pas leur affaire d'être druze, d'être sunnite, d'être ceci, cela. À ce propos, si vous voulez un peu vous dire la complexité de la population, pour vous rendre compte en fait qu'au nom de la protection des minorités, nous sommes en train de tuer en fait les minorités. C'est vraiment l'inverse qu'on vise de toute façon. On a une minorité à la fois confessionnelle et ethnique. Donc évidemment, il y a 70% à peu près de musulmans sunnites quant à la confessionnelle. Ensuite, vous avez 9% environ d'alaouites, chrétiens autour de 5% à peu près. Ce ne sont pas très précis les chiffres. Druzes, 2% ou même un peu moins. Ethnique, vous avez des Assyriens, des Kurdes, des Tcherkesses, des Arméniens, des Turkmènes. Sans oublier les Palestiniens réfugiés qui sont très nombreux, qui sont devenus des Syriens palestiniens. Voilà, et tout ça était dans les manifestations pacifiques. Ce peuple-là se mélange aisément.
Et alors là, donc, vous êtes arrivé juste là, en milieu d'émission, parce que vous étiez assez mobilisé pour assurer la traduction, si je ne dis pas de bêtises, d'un entretien qui est en train de se dérouler en ce moment même à la mairie du 1er arrondissement de Lyon avec le président du conseil de la ville d'Alep-Est, donc le maire, on dirait, chez nous. Si je ne me trompe pas, son nom, c'est Brita Haji Hassan, c'est ça? C'est lui qui est là en ce moment, d'accord. Et donc, il a été élu après la révolution en mars 2013 sur la partie qui avait été libérée, on va dire, du pouvoir du régime... Oui, du régime Assad. Alors, est-ce que vous pouvez nous rapporter ses propos, peut-être, ou quel est le message qui l'amène aujourd'hui d'Alep?
Bah, c'est un message de quelqu'un qui est pas abattu, mais scandalisé qu'on laisse faire de cette façon-là. Comme il l'a dit très bien, il a dit qu'à Alep Est, dans l'armée libre, on va dire qu'il n'y a pas Daesh. Je dis ça parce que le régime et le russe accablent de cette manière-là Alep en disant, sous prétexte de combattre le terrorisme. Or, il n'y a pas Daesh du tout. C'est l'armée libre, d'ailleurs, qui les a chassés d'Alep et qui continue à les chasser au nord d'Alep aujourd'hui. Et puis, en tout cas, il nous dit qu'il y a peut-être 200 membres d'Al-Qaïda dans les rangs qui se trouvent là. Mais est-ce qu'il est raisonnable de tuer un demi-million de personnes, de massacrer toute une population pour atteindre les 2%? Les 200 personnes. Voilà, donc en fait, apparemment, le régime est arrivé à contrôler de 70% d'Alep déjà libéré, donc dont on parle. Il a pu mettre la main par la force et la puissance de feu avec au sol les milices communautaires, chiites ou pas d'ailleurs, c'est pas la question, mais plutôt pro-régime. Et le russe et le régime, donc avec les avions, ils ont obtenu 30% de cette 60. Ils ont pris le tiers déjà des quartiers et probablement ils vont l'emporter.
Oui, effectivement, là, les nouvelles qu'on a entendues nous aussi ce week-end. Il y a eu un communiqué officiel du gouvernement qui annonce la reconquête de ce territoire qui avait été libéré. Juste pour donner quelques repères aussi à tout le monde, Alep, c'est une très grosse ville. Hein, c'est 2 millions en tout, 2 millions 3 à peu près d'habitants. Donc c'est beaucoup plus gros que l'agglomération lyonnaise. Hein, on est en train aujourd'hui de bombarder une ville de cette taille-là.
J'aimerais juste te dire une chose à propos de... Parce qu'on nous parle beaucoup de minorités et défense des minorités. Je suis absolument d'accord. Nous sommes tous d'accord pour défendre les minorités, bien sûr. Mais puisqu'on parle de chrétiens d'Orient, ce sont des chiffres qu'on a eus hier, justement, qui sont intéressants. En 1983, 450 militants chrétiens syriaques. J'ai donné tout à l'heure la composition ethnique, entre autres, il y a les Syriaques qui sont chrétiens, qui ont péri sous la torture, accusés, on est en 83, donc accusés d'être frères musulmans, voilà.
Oui, des chrétiens frères musulmans, voilà.
En 82, le parti de...
N'ayons pas peur des paradoxes.
Donc des membres de parti, 2500 détenus politiques de ce parti, 40% de ces 2500 sont des chrétiens. Toujours accusé d'être frère musulman.
Djihadisme, oui, mais il n'y a pas de problème. Comme le temps passe vite quand on parle d'un sujet aussi complexe, je vous propose peut-être de nous expliquer votre action au sein du comité d'information pour une Syrie libre et démocratique. Peut-être vous pouvez nous expliquer sa création et puis vos principales activités, parce que ce qui peut nous intéresser aussi pour nos auditeurs, fort attentifs et nombreux ce soir, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour mieux s'informer et puis soutenir le peuple syrien de là où on est.
D'accord. Compte tenu en fait de l'ampleur des dégâts de ces oppressions, bombardements, etc. depuis le début de la révolution, beaucoup d'associations à l'étranger donc, sont orientées vers l'action humanitaire. Et en 2013, en fait, on se trouvait sans une voie politique de soutien clair et net à la révolution révolutionnaire qui sont toujours, à ce jour, qui sont sur en Syrie. Et donc, Cécile a été créée en 2013, octobre 2013. Comme ça, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, on s'est retrouvés, on se connaissait un peu et on a décidé de le faire ensemble. On a fait pas mal de réunions. D'abord, nous, à Cécile, c'est très important pour nous, quand on appelle un rassemblement sur la place publique, que toutes les associations puissent être donc présentes. Donc, en fait, on fait en sorte d'être une espèce de centraliser, disons, la révolte dans la rue et le soutien dans la rue. On a fait venir beaucoup d'intervenants. Par exemple, il y a des politologues comme Ziad Majed qui est venu. Il y a François Burga qui est très connu aussi qui est venu donc nous parler de la série. On a fait beaucoup de soirées également. On a choisi l'année dernière de parler de Daraya, cette ville résistante à côté de Damas qui a été vidée de sa population récemment.
Peut-être juste donc pour préciser ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a eu pas mal de mobilisation pour un soutien finalement humanitaire au peuple syrien. Et vous, il vous avait semblé important de garder aussi une réflexion politique, notamment pour préparer l'après, parce qu'on espère tous qu'il y aura un après.
Absolument, c'est bien ça. Merci de m'aider à m'exprimer. Je vais laisser Anazem peut-être le dire.
J'aimerais dire deux mots en fait, c'est que... Même malgré tout ce qui se passe en Syrie, là, les Syriens, le peuple syrien est uni. Moi, je suis musicien. On vient de faire un concert au Luxembourg, dans la Grand Théâtre de Luxembourg.
Alors moi, tous les Syriens que j'ai rencontrés, ils sont artistes quelque part. C'est incroyable.
Voilà, encore un. C'est en fait parce que c'est, on adore la musique, on adore la vie, donc ça passe par là aussi. Donc, on a fait un concert de musique. C'était des Syriens, des gens réfugiés, des musiciens, des pas musiciens. C'était le choral surtout. Et on a fait un concert de musique magnifique. C'était vraiment des opposants avec, enfin, pro-régime, enfin, des Syriens, que des Syriens. Donc, on n'a pas parlé de la politique. Et dans ce concert, il y avait un morceau, un suite, on va dire, très important, là où on a chanté la musique traditionnelle de la Syrie, et on a chanté avec trois langues, l'arabe et syriaque et kurde aussi. On a chanté ces chansons pour dire qu'on est comme ça, quoi. On n'a jamais pensé à diviser entre le peuple syrien. Et ça, j'espère que ça va continuer pour montrer vraiment la vraie culture des Syriens, quoi.
On a fait également, enfin, par rapport à l'action de Cécile, on a fait une exposition donc, à l'Université Lyon 3, comme moi j'enseignais là-bas, donc j'ai profité pour demander la possibilité. C'était en 2015. Ce sont des artistes donc, en exil qui ont exposé pendant 15 jours là-bas pour faire connaître l'art en Syrie et les artistes. Donc c'était aussi un moment, bon, c'est tout à fait autre chose de l'événement dont parle Nazem, mais c'est aussi important pour voir d'autres facettes de la Syrie également, et que les Syriens sont vivants et qu'ils résisteront certainement.
Tout à fait. Alors, on peut préciser que vous avez une page sur Facebook pour vous suivre, donc le CISLD, Comité d'information pour une Syrie libre et démocratique, pour suivre votre actualité, en complément de l'association Alwan, qu'on avait donc reçue le mois dernier au studio de Radio Canu. Alors, pour conclure, parce que c'est bientôt l'heure, on vous propose de lire à quelques voix ce qui est devenu un petit peu une habitude au Canu Info du lundi. Les lectures colériques, c'est une façon d'exprimer notre colère qui est montée à partir du printemps dernier et que notre chère copine Élise nous a aidé à canaliser à travers un texte, enfin plutôt un montage de texte, sur le thème de la soirée, en l'occurrence la Syrie.
Si les balles remplissent les cimetières, quand peux-tu prétendre que ton ombre est lumière ?
Le ciel pleure lui aussi, mais il essuie ses larmes avec le foulard de l'horizon. Je conclurai un pacte avec les nuages pour libérer la pluie, un autre avec le vent pour qu'il nous libère, les nuages et moi. La parole est demeure dans l'exil, chemin dans la patrie.
El-Assad voulait dire le lion, mais ça n'était pas son vrai nom. Son vrai nom était El-Wash, qui signifiait la bête sauvage.
Si les poils sont aussi existants que vous le dites, vous n'avez qu'à épiler vos moustaches.
Hey, on joue à la guerre ?
Ouais.
Ouais.
Moi.
Qui veut les soldats syriens ?
Moi.
Moi.
Moi aussi.
Les soldats syriens étaient en plastique vert. Ils avaient des postures de guerriers valeureux.
Bon, bah toi, t'as qu'à prendre les juifs.
D'accord.
Les soldats israéliens étaient en plastique bleu. Ils avaient des poses fourbes et des attitudes de traîtres.
La première chose qu'on voyait en arrivant à l'aéroport de Damas, c'était le portrait géant d'un moustachu à grand front, à faire El-Assad.
Les enfants syriens sont en train de mourir pour changer la vie des enfants à venir.
Paris Match, oui, oui. Les photos un peu dénudées étaient couvertes au marqueur par la censure. Certaines pages poétiques étaient carrément découpées.
Plus on approchait de Homme, plus les portraits de Hafez al-Assad se multipliaient. Il y avait une statue de lui au milieu d'un rond-point. L'espace libre était occupé par des affiches et des autocollants. Je remarquais alors que le bus en était également rempli.
Les États-Unis et la Russie s'accordaient pour laisser Bachar poursuivre impunément son œuvre de mort avec toutes les armes dont il disposait, sauf l'arme chimique. Ce n'était pas seulement un permis de tuer offert au régime, mais aussi le plus beau cadeau dont pouvaient rêver Daesh et le Front al-Nusra.
La priorité ultime du régime était sa pérennisation. La suspicion et la méfiance vis-à-vis de tout le monde étaient un dogme des services de renseignement et de la sécurité.
Slogan du régime : progrès et socialisme.
Stabilité et sécurité.
Développement et modernisation.
Al-Assad ou personne ?
Al-Assad, nous brûlons le pays.
Une femme protesta. Mais bien sûr que cette guerre est juste. Mon fils y a perdu la vie.
Contre les tueurs en Syrie, crions. Aux armes, citoyens, et employons tous les moyens pour arrêter la boucherie.
Voilà, c'était un montage de texte. Alors, puisqu'on a 2 minutes, on va avoir le temps pour une fois de les citer. On avait des extraits du poème d'Adonis, Toucher la lumière, des extraits de l'Arabe du futur, des extraits de La question syrienne de Yassine El-Hadj Saleh, des slogans du régime, des Assad, et puis des extraits de poèmes Amour et femme de Khalil Gibran et de Salah Moussani. Et puis, puisque j'ai encore quelques secondes, puisqu'on ne me presse pas pour une fois, je voulais aussi vous citer pas mal de ressources qui, moi en tout cas, m'ont aidé à y voir plus clair dans ce contexte compliqué. Alors, pour commencer, ça a l'air d'être une blague, mais c'est très sérieux. Sur Internet, il y a un site qui a été mis en place, le conflit syrien pour les nuls. Il fallait oser le dire, mais c'est fait par des gens très sérieux, notamment Ala Kodmani. Journaliste qui témoigne beaucoup sur le Moyen-Orient, depuis ici ou là-bas. Hala Kodmani a aussi écrit un roman où elle imagine un dialogue avec son père qui s'appelle La Syrie promise, très intéressant. On peut aussi citer un petit ouvrage pédagogique Syrie de Zakaria Taha qui a été publié dans la collection Monde arabe, Monde musulman. Et puis, j'ai aussi lu, vous savez, j'ai potassé, hein, La question syrienne de Yassine El-Hadj Saleh, que je citais tout à l'heure. Et puis, enfin, plus ludique, contestable pour ceux qui connaissent bien la Syrie, mais une bonne introduction pour ceux qui ne connaissent pas du tout, les fameuses BD, il y a 3 volumes qui sont sortis maintenant, L'Arabe du futur de Riyad Satouf. On a même encore le studio, mais c'est magnifique. On n'est pas pressé par l'émission d'après. Alors, je vais peut-être.
Alors, Kodmani est venu justement à une soirée ici à Lyon.
Et je peux vous laisser le dernier mot, Najwa et Nazem, si vous voulez en profiter.
Oui, en fait, moi, j'aimerais dire que on a envie que cette guerre contre les Syriens qui s'arrête et dégager ce régime criminel de Bachar al-Assad.
Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Le monde est un petit village. On ne peut pas se dire ça se passe là-bas. Nous avons tous les moyens pour savoir ce qui se passe et il est honteux que nous restons comme ça à contempler la mort d'un peuple devant, sous nos yeux.
Ah, c'est pour ça qu'on est content de vous recevoir ici. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri. Parce que que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.